Alors,
c'est mieux là.
Berchout Arabe, avec la permission du Rav qui va revenir, avec plaisir. D'abord, j'ai les feuilles, s'il y a des gens qui veulent, pour suivre. Regarde là. Comme ça, ça fait genre je suis sérieux et j'ai bien préparé et tout. Et voilà, il y a des copies. Si vous voulez des copies, avec plaisir. On ne sait pas. On ne sait pas.
C'est pas des feuilles des miennes.
Vous me direz à la fin. D'accord ? Non, c'est en hébreu. C'est en hébreu, mais vous inquiétez pas, on va tout traduire.
Patrick,
il y a des voyelles ?
Des fois, il y a des voyelles, des fois, il n'y a pas des voyelles. Quand c'est des versets, il y a des voyelles. Quand c'est pas des versets.
C'est en hébreu ou en français ?
En hébreu, en hébreu. C'est vrai, quelle idée!
Quelle idée!
Quelle idée de ramener des sources de Torah en hébreu! Franchement! Quelle idée! Ça va alors, les amis? Vraiment très très honoré d'être ici parmi vous. C'est un plaisir et un honneur de pouvoir discuter avec votre communauté. Et comme on est à l'approche d'une fête incroyable, eh bien, je me suis dit qu'on allait en parler. Alors évidemment, si je vous dis on est à l'approche d'une fête incroyable, vous avez en tête la fête de Shavuot. C'est nachon. C'est vrai que la fête de Shavuot est une fête incroyable, mais il y a une fête qui arrive avant Shavuot. Et donc, comme j'imagine que vous allez avoir plein d'études le soir de Shavuot, et qu'en plus cette année, on a une double ration parce que c'est Shabbat avant, donc ça veut dire que j'imagine que les rabbins, déjà Shabbat, ils vont se chauffer, ils vont parler de Torah et de Shavuot avant l'heure. Il y a une fête qui arrive avant Shavuot, puisqu'il y a une fête qui arrive dimanche. Ce dimanche, Motzaï Shabbat, commence une fête absolument incroyable qui s'appelle Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim, la journée de Jérusalem. À quoi cela correspond? Alors, de manière purement calendrier, ça correspond au jour de la libération de Jérusalem en 1967. C'est le jour, le 28 Iyar, où on a réussi, avec la grâce de Dieu, de revenir à Jérusalem. Le grand rabbinat d'Israël a ensuite décrété cette journée-là comme étant une journée de fête dans le calendrier juif. Ça fait partie des fêtes qu'on va appeler des Rabbanan. Vous savez bien que mon cher Rabbeinu nous a donné la force de créer d'autres fêtes après les fêtes de la Torah. On a lu ça dans la paracha de Emor, où à la fin de la liste des fêtes, Moshe, il y a un verset qui nous dit « Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem et Béné Israël ». Et Moshe a dit les fêtes au Béné Israël. Ils nous disent « Non, sache pourquoi ça a besoin de redire ce verset-là alors qu'on a déjà fait la liste de toutes les fêtes ?» Eh bien, pour que tu saches que Moshe Rabbeinu a dit au Sanhedrin, au Chachamim de l'époque, « Voilà, Am Israël a la force de décréter des nouvelles fêtes dans l'histoire. » Comme ce sera le cas à Purim, comme ce sera le cas à Hanouka, et là, en l'occurrence, comme c'est le cas dans le jour de Yom Yerushalayim. Oui.
Ça marche pour Yom Hatzmaut.
Ça marche aussi pour Yom Hatzmaut, bien sûr. C'est-à-dire que Yom Hatzmaut a été décrété par le grand rabbinat d'Israël comme étant une fête, donc évidemment, ça marche dans ce sens-là aussi. Par contre, il y a des fêtes qui sont pour l'instant fêtées, mais qui ne sont pas encore officialisées comme des fêtes. On les fait, on kiffe, mais ce n'est pas officiellement une fête. Par exemple, Tu Bishvat. Tu Bishvat, c'est super. Moi, j'exagère à Tu Bishvat, je mange 80 sortes de fruits. Mais ce n'est pas officiel. C'est-à-dire que celui qui décide de ne pas du tout rien faire à Tu Bishvat, il n'a rien transgressé du tout. D'accord ? Donc, il y a des fêtes qui ont déjà le statut de fête, d'autres Bezrat Hashem qui viendront. On a encore plein de jours dans l'année qui sont parvés. On pourra très bien en mettre des fêtes. Je vous rappelle d'ailleurs qu'à l'époque du Second Temple, il y avait une trentaine de fêtes en plus, qu'on ne connaît même pas aujourd'hui. Des fêtes qui correspondaient à des victoires des Hashmonaïm de l'époque du Second Temple et qui ont été compilées dans un livre qui s'appelle Megillat Ta'anit, qui est souvent cité dans le Talmud. Une trentaine de fêtes différentes. Toutes ces fêtes ont malheureusement été annulées après la destruction du Deuxième Temple parce que bon, ça valait pas le coup de continuer une fête sur des victoires d'un État qui a été complètement détruit. Donc ça a été annulé, sauf Hanouka et Purim qui sont restés et qu'on connaît bien encore aujourd'hui. Bekitsour, pour résumer, Yom Yerushalayim dimanche. Et donc, ben, cette fête-là me dit que c'est peut-être le moment de parler pas seulement de ce qui s'est passé en 1967, mais de comprendre quel est notre lien si particulier à Jérusalem. Parce qu'il n'y a pas à dire. Le rapport qu'entretient le peuple juif à Jérusalem n'a aucune commune mesure. Au moment où je vous parle, j'étais dans le métro, et juste avant d'arriver ici, j'ai appelé mon oncle. Alors, mon oncle, c'est le grand rabbin Bruno Fison, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, et le rabbin de Metz. Et il partait, lui, il allait à une conférence interreligieuse avec un imam, avec un prêtre, un pasteur. Et on discutait un petit peu. Et je lui ai dit, bah, tu vois, par exemple, toi, tu peux leur parler de Yom Yerushalayim. Il m'a dit, arrête, je ne vais pas leur parler de ça. Et je lui ai dit, mais ce serait intéressant que tu demandes à ton imam qu'il soit là. Parce que c'est vrai, finalement, aujourd'hui, Jérusalem est au centre de toutes les passions. Mais si on pose des questions, combien de fois Jérusalem, Al-Quds, est marqué dans le Coran ? Zéro fois. Zéro fois. Ça montre l'importance que l'islam attache à Jérusalem. Vous allez me dire, dans la Torah, c'est pas marqué non plus Jérusalem. Il y a marqué Malkitzedek Melech Shalem. Et Shalem, on va déduire que c'est Yerushalem. Alors certes, dans la Torah, c'est pas marqué, mais dans le Tanakh, c'est-à-dire que Torah Nevi'im Ketuvim, c'est marqué plus de 600 fois. Donc là, c'est clair. Notre lien avec Jérusalem, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, il est évident. D'ailleurs, si un jour vous allez en vacances en Israël, s'il y a des gens qui habitent à Ashdod, qui habitent à Netanya, ils vont faire les vacances à Ashdod, à Netanya. Par contre, il y a une journée Jérusalem. Quoi qu'il en soit, on va avoir une journée. Le jeudi. Pardon, le jeudi ? Ah, c'est le jeudi. Pourquoi on a ce lien avec Jérusalem si particulier ? Et ma question, elle est, en fait, pas pourquoi, mais depuis quand ? Depuis quand avons-nous ce lien si particulier avec Jérusalem ? Eh bien, les amis, il y a un homme, que dis-je un homme ? Un des plus grands géants du peuple juif, qui s'appelait Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai était le chef des rabbins, le chef du Sanhédrin, à l'époque de la destruction du Second Temple. Tiens, c'est dans la source numéro 1 ce qu'on va raconter maintenant. Rabban Yochanan ben Zakkai était donc le chef du Ham Israël à une époque terrible, l'époque de la destruction du Temple. Et Rabban Yochanan ben Zakkai, toute sa vie, va être hanté par une décision qu'il a prise. Et il ne saura jamais s'il a bien fait ou mal fait. Si bien que lorsque son heure arrive, qu'il sent ses forces le quitter, alors je vous raconte, c'est l'histoire qui est marquée dans la source numéro 1, dans la Gemara, dans le traité de Brachot, à la page 28. On dit que lorsque Rabban Yochanan ben Zakkai est tombé malade, tous ses élèves sont rentrés autour de lui et il s'est mis à pleurer. Et lorsqu'il s'est mis à pleurer, les élèves lui ont dit « Mais enfin, pourquoi tu pleures ?» Et il a répondu une phrase qui leur a glacé le sang. Il leur a dit « Je vais bientôt mourir et deux chemins s'ouvrent devant moi. Gan Eden ve Gehinnom. Et je ne sais pas où on va m'amener. » Bon, là, c'est les élèves qui ont commencé à pleurer parce que si lui ne sait pas où il va aller, ben moi, je sais où je vais aller. Alors, il dit, comment c'est possible ? Tu sais pas, machin. Comment est-ce possible qu'un géant comme celui-là ne sache pas s'il va au Gan Eden ou au Gan Eden ? Eh bien, en fait, c'est très simple d'aller au Gan Eden. Comment on fait pour arriver au Gan Eden ? C'est facile. On a le mode d'emploi. Torah, mitzvot. C'est pas chouette. C'est très simple. On a la liste des choses à bien faire et les choses à pas faire. Ben, tu fais ce qu'il faut faire et tu fais pas ce qu'il faut pas faire. Boum ! C'est facile. Alors pourquoi lui ne sait pas ? Imaginons que Rabban Yochanan ben Zakkai fait des avérotes. Je dis imaginons parce que ça ne peut pas être dans la réalité, c'est un tzaddique. Mais imaginons. Bon, alors qu'est-ce qu'il lui reste à faire si jamais ? Mais fais teshuva, je n'en parle plus. Il fait teshuva avant de mourir et puis c'est bon. Et donc, moi je comprends pourquoi il est en stress. Et en fait, la raison est très simple. Il a fait quelque chose et il ne sait pas si ce qu'il a fait c'est bien ou c'est pas bien. Et donc il ne sait pas s'il doit faire tchouva ou s'il doit être très heureux de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, vous connaissez l'histoire. Il a donné Jérusalem. Il a donné Jérusalem aux Romains. De quoi on parle ? On est à la fin de la grande révolte contre les Romains entre l'an 66 et l'an 70 de l'ère chrétienne. Il y a une révolte contre les Romains. Pendant la première année et demie, on gagne. Et puis finalement, on commence à perdre du terrain, et puis on arrive en l'an 70, les Romains font le siège de Jérusalem, c'est terminé. À ce moment-là, Rabban Yochanan ben Zakkai fait preuve, certains diront, de réel politique, d'autres diront de faiblesse. Il prend une décision. Jérusalem est assiégée. Rien ne rentre, rien ne sort, à part les morts. Les morts, on ne les enterre pas dans la ville, on les enterre dehors, donc ils ont le droit de passer. Rabbi Yochanan ben Zakkai décide de se faire passer pour mort. Il se fait passer pour mort, et ses deux élèves, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, vont le mettre dans un cercueil et le sortir de la ville. Et au moment où il sort de la ville, très théâtral comme ça, on l'amène devant Vespasien, le chef des Romains, en place. Et là, il ouvre le cercueil, il sort, « Salut, j'étais pas mort. » Ah bah tiens, c'est pas mal. Et là, Rabbi Yochanan Zakkai lui dit « Ave César. » Non, Vespasien n'est pas César. Il n'est que général. Il dit « Ave César. » Au même moment, arrive un cavalier de Rome qui lui dit « L'empereur est mort, vive l'empereur. Tu viens d'être élu, enfin, il y a quelques semaines, tant que je chevauche de Rome, mais tu as été élu César au Sénat. » Incroyable. Le timing était parfait. Et là, Vespasien dit à Rabbi Yochanan ben Zakkai, tu m'as éclaté. Demande-moi ce que tu veux, je m'en fous, je te donne. Et l'histoire, dans le Talmud, nous raconte que Rabbi Yochanan ben Zakkai a demandé trois choses. Premièrement, il a dit, écoute, il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Tzadok qui est très malade, ça fait 40 ans qu'il jeûne pour ce qui arrive à Jérusalem et tout, il est très mal, donne-lui un bon médecin. Il te dira vous. Ensuite, ne détruis pas la dynastie du roi David. Il te dira vous. Et enfin, il lui dit, regarde, la ville de Yavné, ne la détruis pas et laisse-moi y mettre là-bas les chachamim pour que la Torah continue. Et il lui donne. Voilà les trois choses qu'il demande. Qu'est-ce qu'il ne demande pas ?
Jérusalem.
Il ne demande pas Jérusalem et Jérusalem va tomber. Va être détruit par les Romains, le Beth Amikdash va être détruit. Il y a un chacham à ce moment-là qui est jeune, un petit jeune comme ça, il a 70 ans. Il s'appelle Rabbi Akiva. Il n'est pas encore le patron. Il est un petit jeune, 70 ans on a dit. Et Rabbi Akiva, lui, il est terriblement énervé contre Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il dira « Meshif rachamim achor vedatam isakelu » Ça veut dire « tu fais revenir en arrière le peuple juif, c'est pas bien ce que tu fais !» Et toute sa vie, il va porter cela. J'ai bien fait ou j'ai mal fait. Et le Talmud continue et nous raconte que lorsque ses forces mamash le quittent, il commence à se préparer à faire Shema Israël, il dit à ses élèves qui sont là, il leur dit « Panou kelim mifna atouma » Sortez tous les ustensiles de la pièce parce que je vais mourir, il y aura l'impureté de la mort. Mais préparez une chaise pour Chizkiyahou Melech Yehuda qui est en train d'arriver. On dira le Harizal que les tzadikim sont capables de voir qui va être assis à côté d'eux au Gan Eden. Et donc Rabbi Yochanan ben Zakkai nous dit « Chizkiyahou Melech Yehuda, Chizkiyahou le roi de Judée qui est mort 700 ans avant lui. » qui vient le chercher pour être son compagnon de Gan Eden. Bon, c'est sympathique, pourquoi pas ? Ben pourquoi pas ? Parce que à Chizkiyahou, il lui était arrivé exactement la même histoire, mais il a fait l'inverse. C'est la source numéro 2 dans notre feuille. Chizkiyahou, Melech Yehuda, était lui aussi assiégé par un ennemi beaucoup trop puissant pour lui. L'ennemi en question, c'était Ashur, la Assyrie. Et donc, il est complètement assiégé, et certains veulent se rendre aux Assyriens, veulent laisser la ville aux Assyriens. Mais lui, il dit non. Et finalement, Akadosh Baruch Hu va lui faire un grand miracle et on va être sauvé et la ville ne va pas tomber. Donc, Rabbi Yochanan ben Zakkai, Chizkiyahou, même combat, mais deux options complètement différentes. Lui se bat pour la ville et lui renonce à la ville. Qui a raison ? Ils sont assis tous les deux ensemble au Gan Eden. Ce qui veut dire qu'ils ont tous les deux raison. Mais attendez, alors comment on décide ? Eh bien en fait on décide si on est capable de savoir dans quelle époque on vit. Il y a dans le Talmud une appellation que vous connaissez peut-être qui dit « Tzadik ve tovlo » et « Tzadik ve ralo ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est « Tzadik ve tovlo »,« Tzadik ve ralo » Alors il y a évidemment plein d'explications. On connaîtra l'explication du Admor HaZaken de Chabad dans le Tanya. Une explication très profonde. L'explication de Rabbi Nachman de Breslav, pour le coup, c'est assez rare, est très terre à terre. Dit Rabbi Nachman de Breslav dans l'Ikute Moharan, Tzadik vetov lo, c'est un tzadik, et la halakha est comme son avis. Alors tov lo. C'est-à-dire que la halakha a été tranchée comme ce que lui pense, donc il est content. Tzadik vera lo, c'est un tzadik. Il a un avis de halakha, mais ce n'est pas celui qui a été retenu par les chachamim. Azra lo. Cachez-le, c'est dur pour lui parce qu'il a un avis, et ce n'est pas un avis idiot, c'est un avis de Torah, c'est un tzadik. Mais c'est pas celui qui a été retenu. Et il est obligé d'accepter la vie d'un autre. Dur. En d'autres termes, des fois, il y a des rabbins qui sont tzadikim. Mais la façon dont ils voient le monde n'est pas la halakha. Qu'est-ce que ça veut dire n'est pas la halakha ? N'est peut-être pas en accord avec la période. Et il faut absolument aller voir, quand on a une question, un rabbin qui connaît sa période. C'est marqué dans la Torah. Dans la source numéro 3, ici, nous avons un verset dans la paracha de Shoftim qui nous dit « Uvata el ha-kohanim ve-ha-levi'im ve-la-shofet asher yeh ba-yamim ha-em ve-darashta ve-yigidu lecha et devar ha-mishpat » Quand tu as une question, la Torah nous dit « Va voir les rabbins qui sont en son temps, qui sont en ton temps. Asher yeh ba-yamim ha-em. » Rashi nous dit « Oui, pourquoi est-ce qu'il y a marqué « en ton temps » Parce que tu n'as de rabbin que celui qui est vivant à ton époque. » Ben oui. Enfin, Todaraba, Rashi, mais qu'est-ce que tu viens m'apprendre? Est-ce que ça viendrait à l'esprit de quelqu'un d'aller, quand il a une question à poser, d'aller voir un rabbin qui n'est pas né? Ben non. Est-ce que ça viendrait à l'esprit de quelqu'un d'aller voir un rabbin qui est déjà décédé? Bien sûr que non. Donc il est évident que quand on a une question, on vient voir un rabbin qui est en son temps. Donc qu'est-ce que nous apprend Rashi? Eh bien, Rashi nous dit, effectivement, mais parmi les rabbins qui sont vivants, il y en a qui comprennent leur époque et d'autres qui ne comprennent pas leur époque. Et toi, tu dois aller voir un rabbin qui comprend son époque. Pourquoi? Ben parce que si tu es à l'époque de Rabban Yochanan ben Zakkai, il faut que tu comprennes que oui, nous sommes dans une époque à ce moment-là de destruction. Et donc, il faut sauver les meubles. Mais si tu es à l'époque de Hizkiyahou, c'est une époque de construction. Et donc, il faut se battre corps et âme. Il faut juste savoir analyser quelle est l'époque. Et c'est très, très important. Quand on revient à Rabban Yochanan ben Zakkai, finalement, lui, il avait compris que les Romains n'allaient pas partir de toute façon. Jérusalem est tombée. Sauf que, une fois que Jérusalem est tombée, eh bien, il a fait quelque chose pour cristalliser notre lien avec Jérusalem. Comprenez-moi bien, avant Rabban Yochanan ben Zakkai et après, ce n'est pas le même judaïsme. Il faut en être conscient. Le judaïsme d'avant, c'est-à-dire le judaïsme du Beth Amikdash, depuis notre entrée en Israël avec Yoshua jusqu'à la destruction du second temple, c'est un judaïsme qui est tourné à 80% vers le Beth Amikdash. Pratiquement toute la vie juive est tournée vers Jérusalem et le Beth Amikdash. Maintenant, il n'y a plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Rabban Yochanan ben Zakkai va mettre en place énormément de takanot, de décrets pour cristalliser notre lien avec Jérusalem. Et vous les connaissez. Par exemple, on va se mettre à citer Jérusalem partout. Pas seulement dans le Tanakh, on a dit plus de 600 fois, mais dans notre vie quotidienne. Dans notre vie. Trois fois par jour, on parle de Jérusalem. Il y a d'autres moments où on parle de Jérusalem, vous connaissez? À part les tfilot. Pessah. Mais je parle au quotidien. Au quotidien, quotidien. Avant, on va, après, on parlera des événements. C'est aussi un événement. Je te parle du quotidien. On prie trois fois par jour, boum, Jérusalem trois fois par jour. On mange. On mange tous les jours. Dans le Birkat Amazon. On va te parler de Jérusalem. Je vais chez moi à la maison. Ça m'arrive souvent de rentrer à la maison. Je sais pas, ça vous arrive aussi de rentrer à la maison? Tu rentres à la maison au moins une fois par jour. Et bien quand tu rentres, tu ouvres la porte, nous dit Rabban Yochanan ben Zakkai, ben tu vois, là, en face de ta porte d'entrée, tu vas laisser un carré de 1 demi-mètre sur 1 demi-mètre, pas fini. Et à chaque fois que tu vas rentrer dans ta maison, ça va être tout moche. Et pourquoi ça va être? Rappelle-toi, il manque un truc. Jérusalem n'est pas construit. Comment tu peux finir ta maison? C'est-à-dire que dans notre quotidien, on parle de Jérusalem depuis 2000 ans. Et après, vous me dites dans les événements. Évidemment, que ce soit la Brit Mila, mariage. On se rappelle, qu'est-ce qu'on fait dans les mariages? Vous avez déjà été dans un mariage? Il y a un minhag qui, encore une fois, qui est une takana de Rabban Yochanan ben Zakkai que très peu font. Baruch HaShem, moi j'ai eu la chance de le faire, c'est qu'on met de la cendre sur le front du Khatan. Bon, c'est assez rare en France, mais parce que les gens ils sont tellement classe et tout qu'on n'a pas envie de salir le costume. Hein? Et voilà, la belle-mère elle va pas accepter, bien sûr. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on le fait avant de rentrer sous la coupa. Quand ta belle-mère elle est pas encore là, on met de la cendre sur la roche, sur la tête du khatan. Pourquoi? pour se rappeler de la cendre du Beth Amikdash. Et puis, il y a le truc que tout le monde connaît, et que, soyons honnêtes, la majorité des gens se trompent un peu d'idée. Hein, le coup du verre. Ou au moment où on a cassé le verre, tout le monde commence les yu-yu. Non, il ne faut pas commencer les yu-yu juste au moment où tu casses le verre. C'est quoi le cassage de verre? D'ailleurs, il faudrait qu'on change. Hein. Je vais en parler avec le Rav. Je ne sais pas si vous faites des mariages ici dans la synagogue. Je pense qu'il faut absolument changer. Je vais demander au Rav qu'on change et qu'on fasse des cassages de iPhone. Ah bah oui, parce que casser un verre, quelqu'un s'est senti blessé, endeuillé. Quelqu'un, ça a fait mal à quelqu'un de casser un verre. C'est rien du tout casser un verre aujourd'hui. Ça ne nous fait rien. À un moment, c'est de la faute du folklore, de la tradition. Non. Pourquoi est-ce que Rabban Yochanan ben Zakkai a mis en place qu'on casse un verre? Parce que les amis, il y a 2000 ans, un verre en verre, ça coûte un bras et demi. Le verre est un matériau extrêmement cher à l'époque. Et donc, quand on te dit tu vas briser un verre, c'est je ne sais pas combien de mois de salaire. Et là, ça fait mal. Et là, tu ressens quelque chose. Donc, quand tu casses le iPhone que tu viens de recevoir, là, oui. Là, ça parle. Mais c'est ça l'idée. On met en place toutes ces takanotes pour garder Jérusalem au centre de notre vie au quotidien. Et vous m'avez dit Pessah, évidemment. Cette fameuse phrase, Leshana Abba Birushalayim. L'an prochain à Jérusalem. J'aimerais qu'on s'arrête deux petites secondes sur cette phrase parce qu'elle est fondamentale. Je pense ne pas me tromper en disant que dans la communauté ici, on a une majorité de Sfaradim. Ouais, je ne me trompe pas. Majorité de Sfarad. Ça donne. Alors, il y a des Ashkenazim qui existent aussi dans le monde. C'est vrai. Je suis un représentant des Ashkenazim. En France, on n'a pas l'habitude parce que 90% de la communauté juive, elle est séfarade. Ma femme, elle a grandi en Angleterre. Et je vous jure, je rigole pas. Elle a grandi en Angleterre. Jusqu'à ce qu'elle retourne en Israël à l'âge de 17 ans, elle n'avait jamais vu un séfarade de sa vie. Jamais vu. Elle n'avait pas entendu des légendes sur les séfarades, mais elle n'avait jamais vu. À Manchester. Et elle arriva en Israël, elle a vu, et elle a dit, mais j'étais choqué. Non seulement j'ai vu des séfarades, qui sont comme nous, et puis, attends, ils ont même des rabbins. C'est incroyable. Vous imaginez. Et pourquoi je parle à Ashkenaz séfarade? Et bien, simplement parce que, au-delà de la nourriture, parce que la nourriture, c'est une évidence, que c'est pas pareil. Mais la loi juive, elle se vit pas pareil quand on est séfarade et quand on est Ashkenaz. Vous allez me dire, non, mais de manière générale, c'est la même chose. Oui, mais c'est dans les petits détails qu'on crée des grandes marlokotes. On ne prépare pas un thé de la même façon à Shabbat si on est Ashkenaz ou Sépharade. La plata, qu'est-ce que j'ai le droit de mettre sur la plaque de Shabbat? C'est pas le même Shabbat si je suis Ashkenaz ou Sépharade. Est-ce que j'ai le droit de réchauffer un liquide? J'ai pas le droit de réchauffer un liquide? Comment j'ai le droit? Je mets une grille, je mets pas une grille? Vous allez me dire c'est des détails. Mais non, ces détails-là font un judaïsme.
Et pourquoi on a la même Torah?
Bien sûr qu'on a la même Torah, mais tu sais ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? On est parti en exil. On n'a plus un Sanhedrin, une communauté rabbinique qui tranche pour tout Israël. Et donc, dans chaque région, bah, le rabbin, il a fait au mieux. Et il a compris comme il a compris. Et résultat des courses, on a cru. Là, je te parle d'Ashkenaz Sepharad. Mais tu sais, il y a des juifs du Yémen, il y a des juifs... C'est pas la même chose. Va entendre une lecture de Torah d'un juif yéménite. Je sais pas si Atayot Selide Chova, je sais pas si tu as compris. C'est une prononciation complètement différente. Des minagim complètement différents. C'est incroyable. Par exemple, tout le peuple juif, sauf les juifs du Yémen, ont pris comme minhag de ne pas manger de viande grillée le soir du Seder. Enfin, on fait chez les Sfaradim, on fait les grillades la veille. Pourquoi on ne mange pas de viande grillée le soir du Seder? Justement, pour ne pas se rappeler le Korban. Pour pas que tu penses que c'est le Korban. Pour les juifs du Yémen, ça n'existe pas. Eux, ils mangent viande grillée le soir du Seder. Je me souviens, une des années où j'étais à l'armée, j'ai fait le soir du Seder chez un de mes copains de l'armée, qui était yéménite. On est arrivé chez lui, son père était le rav du village et était aussi shochet. Bah, l'après-midi, il a pris un agneau, Baruchata à la shrita, il l'a shrité, il l'a vidé, tchik-tchak, tchak-tchouk, il a fait passer une broche comme ça de part en part du machin. Et il l'a mis sur le feu toute l'après-midi. Je me croyais dans un album d'Astérix. Il mettait un peu de sauce barbecue dessus de temps en temps et tout. Et le soir, Incroyable. Nous, nos matzot, on les achète chez Chabad, elles sont en carton et elles sont prêtes depuis. Les femmes, c'est-à-dire sa femme et ses filles, quand nous, on est partis à la synagogue, elles ont fait les matzot. C'est quoi, elles ont fait les matzot? Oui, elles ont fait les matzot. De l'eau, de la farine, moins de 18 minutes, sur le truc, la, le tamoun. C'était des lafot, chaudes. Et puis après, à un moment donné, dans le seder, vous savez, on fait korer. Et nous, on fait croire aux gens que c'est bon. La matzah en carton, avec un peu de salade, un peu de maror. Nous, lui, il a fait korer. On a mis sa lafa, on a mis de la salade. Il m'a pris un peu de charoset. Chez eux, le charoset, il est un peu piquant comme ça. Puis il m'a coupé le shawarma dedans. Il a roulé. Et après, j'ai lu dans la Haggadah, « Zecher le mikdash kehilel ». Ah oui, bah oui, ah oui, là, il a lu, c'est ça. Bon, évidemment, nous, on ne fait pas ça. Donc, pourquoi je te dis ça? Parce qu'effectivement, dans la pratique du judaïsme au quotidien, au bout de 2000 ans d'exil, on ne pratique pas le judaïsme de la même façon si on est là, là, là ou là. Et donc, c'est un danger, parce qu'on aurait pu se diviser en plusieurs peuples. Qu'est-ce qui a fait qu'on est resté un peuple juif malgré l'exil et malgré les différences dues à l'exil? C'est l'an prochain à Jérusalem. Le fait qu'on a eu cet espoir continuel de retour à Jérusalem, c'est ça qui a gardé l'unité du peuple juif, qu'on soit au Maroc, qu'on soit en Pologne ou ailleurs. Alors, on a compris que Jérusalem, on l'a fait rentrer dans notre vie au quotidien. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qu'elle a comme particularité, Jérusalem? Eh bien, les amis, Jérusalem, peut-être la chose la plus centrale pour nous, c'est que, nous dit la halakha dans la source numéro, ici, est-ce que je l'ai mis? Je sais plus où je te l'ai mis. Ouais, la source numéro 9, nous dit la halakha que lorsqu'on fait la tefila, vers où on va se tourner? Vers Jérusalem. Alors, ce n'est pas totalement exact. D'abord, il y a une réponse qui est complètement fausse. C'est les gens qui me disent on se tourne vers l'Est. Ça dépend. Oui. Ça dépend où tu es. C'est-à-dire, nous, en France, on a l'habitude de se tourner vers l'Est. C'est d'Achon. Mais si un jour, tu vas te balader, moi, je ne sais pas, tu vas en vacances au Japon, tu ne te tournes pas vers l'Est. Tu vas te tourner dans l'autre sens. Si tu vas en vacances au nord, 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 tu te tournes vers le sud. Et nous dit la Mishnah, en fait, que Aya Omed Bechutz Alaaretz, donc tu habites à Paris, tu es à Charenton, en fait, tu ne te tournes pas vers Jérusalem. Tu te tournes vers Eretz Israël. Aya Omed Bechutz Alaaretz, c'est la source numéro 9. Yechaven le Eretz Israël. Semble-t-il, tu ne peux pas encore te tourner vers Jérusalem. Il faut d'abord, quand on est des communautés de diaspora, il faut d'abord se rattacher, se tourner vers la collectivité du peuple juif. C'est Eretz Israël. Une fois que tu es en Eretz Israël, alors tu vas te tourner vers Jérusalem. Là encore, pas vers l'Est. Ça dépend. Si tu es à Eilat, tu te tournes vers le Nord. Si tu es à Kiryat Shmona, tu te tournes vers le Sud. Si tu es à Tel Aviv, tu te tournes vers l'Est. Mais si tu es à la Mer Morte, tu te tournes vers l'Ouest. D'accord? Donc Jérusalem, c'est l'endroit vers lequel on va se tourner. Vous allez me dire, bah, ok, c'est bien, c'est sympathique, mais en quoi c'est important? Nous dit Rabbi Yehuda, allez vivre et se faire à Kuzari. C'est là aussi la source numéro 10. C'est la raison profonde de pourquoi, pas pourquoi, mais de comment on sait que le christianisme et l'islam ont tort. Nous dit Rabbi Yehuda Alevi, parce qu'ils ont changé la direction de la prière. Ils ont arrêté de se tourner vers Jérusalem. Les chrétiens, vers où ils se tournent? Vous avez déjà été dans une église?
Vers Rome.
Toutes les églises se tournent vers l'Est, exactement. Qu'elles soient en France ou qu'elles soient ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est un vestige de l'idolâtrie. Tous les temples de l'idolâtrie étaient tournés vers l'Est parce que c'est le soleil qui se lève, c'est le dieu soleil, ce que tu veux. Donc, si tu veux, ils ont gardé un véritable vestige de l'idolâtrie dans la direction de leur tfila. Et pour ce qui est des musulmans, dans le Coran lui-même, on nous raconte qu'ils ont changé. Mahomet, au début, se tourne vers Jérusalem. Et après avoir tourné le dos à Jérusalem et au peuple juif, il décide de se tourner vers la Mecque. Et au lieu de se tourner, lui, vers Jérusalem, eh bien, il tourne autre chose vers Jérusalem, si vous voyez ce que je veux dire. Vous savez comment les musulmans font la tfila. Donc, si le visage n'est plus vers Jérusalem, mais dans l'autre sens, vous aurez compris qu'est-ce qui tourne vers Jérusalem. Voilà. Amevin Yavin. Dai la Hakima Birmiza. Celui qui est sage, on a besoin que de lui faire des allusions, il a compris. Et c'est de ça qu'on parle, les amis. On a dit tout à l'heure dans le Coran, zéro fois à Jérusalem. Après la mort de Mahomet, il y a un monsieur qui va le remplacer, il s'appelle Omar. Omar, il va devenir le premier calife. C'est quoi un calife ? Quoi un calife ? Le calife. Le califat. Vous avez entendu parler de Daesh ? L'État islamique ? Hein ? Un chef ? Non ! Bien, on parle en arabe. Un roi ? Non plus ? Un empereur ? Un bataille ? Vous parlez pas l'arabe ? On habite en France. C'est important de parler la langue du pays. Non, ça ressemble à l'hébreu. Mazé khalif. Pas un khalouf. C'est le mahlif. Un mahlif. Le khalif, c'est celui qui remplace. Qui remplace qui ? Mahomet. Celui qui succède à Mahomet. Le mahlif. D'accord ? Et donc, Omar, c'est le premier calife. Il va remplacer Mahomet. Bon, en vérité, il y a une marloquette chez les musulmans. Parce que Mahomet, il avait une fille, Fatima, qui était mariée avec un monsieur qui s'appelle Ali. Et eux, Ali dit que Mahomet l'a choisi lui pour continuer. Omar, il a dit non. La différence entre Ali et Omar, c'est que Ali, c'était le mari d'eux. Et Omar, c'était le chef de l'armée. Voilà. Et donc, la halakha a été tranchée, kipchuto, par Omar. Hein, c'est étonnant. Il a tranché dans le vif, il a tué Fatima, il a tué Ali et il a pris le pouvoir. Et c'est ce qui a créé le schisme entre ce qu'on appelle les sunnites et les chiites. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, Omar, il va conquérir plein de choses. Et il va arriver en Israël. Et il va faire la conquête de la terre d'Israël. Et comme tout grand conquérant, il tient un journal de conquête. Intéressant, lorsqu'il arrive à Hebron, Hebron, c'est l'enterre d'Abraham, ça, Yaakov, pour eux c'est important, Ibrahim, un chapitre entier sur la conquête de Hebron et combien il est terriblement ému. Quand il arrive à Jérusalem, il fait la conquête de Jérusalem aussi. Combien il écrit ? Walou ? Pas une ligne sur la conquête de Jérusalem. Ça ne l'intéresse pas. Alors il va construire une mosquée là-bas, parce que c'est la loi musulmane, donc il n'y a pas de mosquée, on fait une mosquée, mais comment il l'appelle ?
Omar.
Alors, la mosquée d'Omar, vous faites référence au dôme doré. Alors voilà, ça c'est une erreur qu'on nous a vendue. C'est pas une mosquée. Le dôme doré qui est là-bas, c'est pas une mosquée.
Une ex-synagogue.
Non, alors oui, c'était le Beth Amikdash. Mais c'est pour eux un endroit où il y a une pierre. Et pour eux, ils disent que c'est là que Mahomet est monté au ciel. On va voir que c'est pas vrai, c'est même pas ça qu'ils disent en vrai. Mais c'est là qu'il est monté au ciel, mais il prie pas là-bas. C'est un lieu de recueillement, c'est pas la mosquée. D'accord ? Voilà, où est la mosquée ? La mosquée, c'est Al-Aqsa, c'est le dôme argenté. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà été, vous avez vu des photos, mais sur le dôme doré, tout autour, il y a des inscriptions. Ce sont des sourates du Coran. Moi, je me dis, bah, alors très bien, ils vont me parler de Mahomet qui est venu. Ben non, parce que vous vous rappelez, Jérusalem n'est pas mentionné dans le Coran. Donc, de quoi on parle là-bas ? De la Akedat Yitzhak. La Akedat Yitzhak, c'est Abraham, on ne parle que d'Abraham là-bas. Bon, quoi qu'il en soit, la mosquée, elle s'appelle Al-Aqsa. Ça veut dire quoi, Al-Aqsa ? Encore une fois, l'arabe, l'ulpan, important. Al-Aqsa, ça veut dire l'éloigné, la loin. Baketse. Ok ? Aketz. Al-Aqsa, la lointaine. Tu parles d'une centralité ? Pour vous dire que pour les musulmans, c'est vraiment le khashoum. Ça deviendra important au XIIIe siècle pour des raisons économiques. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Nous dit Rabbi Yehuda Halevi, comment on sait qu'ils ont tort ? Ils ont changé le kivoun, la direction de la tfila. Quand tu ne te tournes plus vers Jérusalem, alors ton rapport au divin, il n'est plus droit. Donc on a compris que nous, on a mis Jérusalem au centre de notre vie au quotidien, et particulièrement dans le kivoun, dans la direction qu'on donne à notre vie. Mais en vérité, il y a autre chose qui va faire qu'on a parlé de la Jérusalem comme étant le vecteur de rassemblement du peuple juif. À qui elle appartient, cette ville ? Je reviens à l'époque de la Torah. Toute la terre d'Israël a été donnée aux différentes tribus d'Israël. À qui appartient Jérusalem ?
Binyamin.
Tribu de Binyamin. Alors, il y a une frontière entre Yehuda et Binyamin. Est-ce que le Beth Amikdash, c'est à l'un, c'est à l'autre ? Concrètement, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué parce que celui qui va se balader à Jérusalem, quelqu'un a déjà été à Jérusalem ? Quand tu vas à Jérusalem, tu vas où ? Tu vas à Ben Yehuda. Ouais ? C'est à quelle tribu, Ben Yehuda ? C'est pas à Jérusalem de l'époque. Donc c'est la tribu de qui ? C'est pas clair. C'est Yehuda ou c'est déjà Binyamin ? En vérité, il y a une rue, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Emek Refaim. Il y a des restaurants et tout là-bas. C'est la frontière entre Yehuda et Binyamin. C'est même la frontière. C'est pour ça qu'il y a une fontaine, il y a un endroit qui s'appelle le Ganapa Amon, c'est un jardin avec une cloche. D'où le nom, le jardin de la cloche. Et il y a une fontaine là-bas avec plein de lions. Et en fait, cette fontaine-là, archéologiquement, l'endroit, c'est la limite entre la tribu de Yehuda et là où commence Binyamin. Donc ils ont mis des lions qui sont le symbole de Yehuda pour genre garder l'entrée dans la tribu de Yehuda. Donc Jérusalem, c'est la tribu de Binyamin. Oui, c'est bien beau tout ça, mais ça, c'est sur le papier. Mais dans les faits, Jérusalem n'a pas été conquise. Lorsqu'on est rentré en Israël avec Yehoshua, on a conquis tout le pays, sauf Jérusalem. Ah, on n'a pas réussi. Il est resté entre les mains des Jébuséens, des Yévoussines. Et il a fallu attendre 400 ans pour que David conquiert Jérusalem. Alors, il a conquis Jérusalem, oui, mais il y a une petite partie qu'il n'a pas conquis. C'était quoi ? Le mont du Temple. Harabait. Il ne l'a pas conquis. Pourquoi il ne l'a pas conquis ? Pas qu'il ne pouvait pas. Mais il a décidé que le Harabait, il allait l'acheter. Il y a un monsieur là-bas qui s'appelle Aravna Yevoussi. Il lui dit, je vais t'acheter le Harabait. Et là, on a un problème, parce que vous savez comment sont les Juifs quand on parle d'argent. Ça marque l'optise. Et là, quand tu regardes dans le livre de Shemuel, eh bien, on va voir que David a acheté Harabait, mais pour une somme. C'est dans la source numéro, je ne sais plus combien, 15. Non, c'est ça, dans la source numéro 14. ויאמר המלך אל הרבנה לא כי קנו אקנה מאותך במחיר ולא אעלה להשם אלוהי עולות חינם ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים 50 il achète הר הבית pour 50 שקל on se parle de shekel qu'aujourd'hui mais 50 shekel le problème c'est que quand tu vas regarder dans un autre livre du Tanakh qui s'appelle Divrei Hayamim là-bas on te dit non, attends deux secondes ויתן דוד c'est la source numéro 15 לערבנה במקום שקלי זהב משקל 600 600 שקל אני לא מבין, דודרון, הוא יפה 50 או יפה 600 הוא יהיה עם אינפלציה בין ספר שמואל לספר דברי הימים כוח, הוא יפה כמה בפינל? 50 או 600? זה לא פשוט זה זה, הוא יפה לבין כנקסום דודרון עובד נודיז לקומנטטר זה פשוט Il a payé 600 shekels. C'est ça que ça a coûté.
Mais ça valait 50.
Non. C'est juste que dans Shmuel, on te dit qu'il a donné 50 au nom de la tribu de Yehuda. Et chaque tribu, eh oui, il y a 12 tribus, chaque tribu a donné 50. Ça fait 600. Ce qui veut dire que, hein, il y a fait, t'as compris. Ça veut dire que à qui appartient Jérusalem ? Pas sur le papier, mais dans les faits. À tout Israël. Am Israël a acheté Jérusalem. Et plus important encore que Jérusalem, le mont du Temple. Il y a une véritable dimension d'unité quand on parle de Jérusalem. D'ailleurs, c'est pas moi, hein, vous savez bien que c'est marqué dans le Tehilim. Comment est-ce qu'elle s'appelle Jérusalem dans le Tehilim ? Vous connaissez ? Yerushalayim. Hein ? Shelzav, c'est Naomi Shemer. C'est bien aussi, mais c'est pas Tehilim. Regardez ce qui a marqué ici dans la source numéro 13. Omdot ayu raglenu bishareich Yerushalayim. Yerushalayim abenuya keir shechubrala yachdav. J'aimerais m'arrêter deux secondes sur ce shechubrala yachdav qui ne fait plus qu'un. Vous savez, en hébreu, il y a deux mots. Il y a le mot beyachad et le mot yachdav. On voit dans la Torah, des fois, il y a marqué beyachad ou yachad. Et des fois, il y a marqué Yachda. Ce n'est pas la même chose. Beyachad, ça veut dire qu'on est tous les deux ensemble. On va ensemble quelque part. On est toi et moi, mais on va ensemble. Yachda, il n'y a plus toi et moi. On est mamash, un. Toi et moi, ensemble. Mamash, un. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est qui les premiers qui vont aller Yachda quelque part ? Vous avez compris. C'est Avraham et Yitzhak dans la Akeda. Et où est-ce qu'ils vont ? Ah, le Harabait. Vayelchou shnehem yachdav. Vous comprenez que ce moment-là, c'est le moment qui va déterminer l'avenir du peuple juif. Avraham ve Yitzhak. Quel âge il a Yitzhak à ce moment-là ? On se rappelle, 37 ans. C'est pas un petit bébé, comme on a l'habitude de dire. Ils avancent. Est-ce que Yitzhak a conscience de ce qui va lui arriver? Hein, qu'est-ce qu'il dit à son papa? Hein, il lui dit, il y a le feu, il y a le couteau, va y a c'est le hola. Dieu, il va montrer le hola béni. Mais la phrase la plus forte dans l'histoire, combien de dialogues il y a entre Abraham et Yitzhak avant cet événement-là, d'après la Torah? De dialogues. Combien de fois Abraham a parlé à son fils? Il a 37 ans. Zéro. Il n'y a pas un dialogue entre Abraham et Yitzhak. Et pas un dialogue entre Yitzhak et Abraham. Comme si l'un ne reconnaissait pas l'autre comme son fils et l'autre comme son père. L'un est midat ha-chesed, l'autre est midat ha-din. Ce sont deux mondes qui se séparent complètement. Aval, tout d'un coup, ils se retrouvent vers Jérusalem. Le Midrash nous dit ça de manière extrêmement belle, que lorsqu'ils sont arrivés devant la montagne, Vayar et Amakom Merachok, au bout de trois jours de marche, il n'était pas tout seul, Abraham et Israël. Il n'était pas tout seul. Il y avait encore deux personnes. Ken, Eliezer, Ishmael. Pourquoi il les a pris? Pourquoi il ne va pas tout seul avec Israël? Dieu lui a dit que Israël. Pourquoi tu amènes les autres? Me dit le Maharal de Prague, parce qu'il n'est pas sûr. Peut-être que ça ne va être pas avec Israël. Peut-être que ça va être avec Eliezer, mon élève. Ou avec Ishmael, mon autre fils. Bien que Dieu lui a dit non, ce sera Israël. Il arrive là-bas. Et il voit Anan Kashur Al-Har, il voit cette présence divine sur la montagne. Et il dit à Eliezer, Ishmael, vous voyez quoi? Il dit, on voit une montagne. Et il dit à Yitzhak, tu vois quoi? Anan Kashur Al-Har, il comprend que c'est avec lui. Et là, il y a marqué une phrase fantastique, au bout de 37 ans. Yitzhak dit à Abraham, papa. Et Abraham répond à Yitzhak, Yireh lo aseh le'ola béni. Et à ce moment-là, ils arrivent au Harabait. Ils arrivent et on fait le Mizbeach. Et on met Yitzhak sur le Mizbeach. Birushalayim. L'archétype. Et à ce moment-là, vous connaissez toute l'histoire. Ron, Akeda, vous la connaissez, hein, on la connaît tous. Mais moi, j'aimerais aujourd'hui qu'on voit deux secondes. Je ne l'ai pas marqué dans la feuille. Mais j'aimerais qu'on voit la scène qui a été coupée au montage. Non, parce que le metteur en scène de la Torah, il avait des coupes budgétaires et les studios lui ont dit « Non, il y a des scènes qu'on ne pourra pas mettre dans le livre. » Donc on les a coupées au montage, mais t'inquiète pas, on les a mis dans le Midrash. C'est quoi la discussion improbable entre Abraham et Dieu? Parce que vous connaissez le film, bon, alors Abraham, il est là, il attache son fils, tout va bien. Et puis là, il prend le couteau et il est lancé et arrive le Malach. Le Malach lui dit « Abraham, Abraham !» Il dit quoi? Et donc on connaît le film. Ah, ok. Et Dieu lui dit, voilà, je sais maintenant que tu me crains. Et tout le monde pleure dans les violons. Midrash Tanhuma nous dit que ça ne s'est pas passé comme ça. Le Malach a dit, Al tishlach yadecha lanar. Et Abraham, il a dit, et tu es qui toi? Il dit, bah, je suis Malach. Malach, c'est mon métier. Il dit, ah ouais, alors écoute-moi bien, monsieur Malach. Quand Dieu il m'a dit de sacrifier mon fils, il est venu en personne. Donc s'il veut maintenant que je descende mon fils du Mizbéar, il viendra en personne. Je ne parle pas au secrétaire. Alors tu dégages. Et le Malach, il s'en va. Dans le couloir des Malachim, il rencontre ses copains. Et il dit, il est en bas, il est... Veishlach Malach Hashem Shenit Minashamayim. Il y a un deuxième Malach qui descend. Il dit, bon courage. Et le deuxième Malach, il arrive, Abraham, il est là, il dit, tu es qui? Le Malach, tu as vu ton copain? Allez, par là-bas. S'il veut, qu'il vienne. Et donc le Malach, il vient voir Akadosh Baruch Hu, il dit, il veut toi. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, Tov, je viens. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Abraham répond à Dieu, il dit, écoute-moi bien. Je te jure, je ne bouge pas d'ici tant que je n'ai pas dit ce que j'ai à dire. Dieu lui dit, d'abord, parle. Abraham lui dit, dis-moi, n'est-ce pas que tu m'as dit que j'aurai un fils? Il te dira oui. Et n'est-ce pas que tu m'as dit que de ce fils, ce serait Yitzhak et j'aurai une grande descendance? Il te dira oui. Alors n'est-ce pas que quand tu m'as dit de sacrifier Yitzhak, j'avais toutes les raisons du monde d'argumenter avec toi et de dire, mais enfin Dieu, tu m'avais dit que... Dieu dit, c'est vrai. Et j'ai rien dit. J'ai rien dit, je me suis contrôlé et j'ai fait ta volonté. Dieu lui dit, effectivement. Et là, Abraham lui dit, très bien, alors écoute-moi bien Dieu. Lorsque les enfants de Yitzhak un jour, partiront en cacahuète et qui feront n'importe quoi et que tu voudras leur faire quelque chose, et bien, toi aussi tu te contrôleras et tu leur feras rien. Là, Kadosh Baruch Hu répond, Binishbati Neum Hashem. Je te promets. Tout ça, ça se passe à Jérusalem. L'avenir de l'alliance entre Am Israël et Kadosh Baruch Hu, ça passe par Jérusalem. Sauf que là, tu crois que l'histoire est terminée. Et Abraham, il est content. Et il commence à s'en aller. Et Dieu lui dit, viens, moi, j'ai pas fini. Il dit quoi? Et là, Dieu lui dit, et si jamais j'oublie ma promesse, comment on fait? Comment ça t'oublie? Mais t'oublie pas, t'es Dieu. Ça n'existe pas, t'oublie. Il dit, non, si jamais j'oublie. Ah, je sais pas. Alors il dit, regarde, tu vois là-bas? Il voit le bélier. Et là, il dit, voilà. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas dire à Yitzhak, qu'il dise à ses enfants, qu'une fois par an, le jour où je juge le monde, tu vas prendre la corne de ce bélier et vous allez sonner pour me rappeler ma promesse. Et bon, nous, on a toujours cru que la sonnerie du chauffard. Et moi aussi, dans ma communauté, je le dis à Jérusalem, on sonne le chauffard pour nous réveiller et faire tchouva. J'imagine que le rabbi le dit ici chaque année. C'est important, il faut. Mais en vérité, le chauffard qui vient nous réveiller, nous, c'est le chauffard du mois de Elul. Ouh, ouh, yeshenim, mitar de matrem. Mais le chauffard de Rosh Hashanah, nous dit le Midrash Tanhuma, c'est kivyachol, pas pour nous réveiller, mais pour lui rappeler sa promesse qu'il a faite à Avraham. Et effectivement, cette promesse, il s'en rappelle, et il va utiliser la corne du bélier, Dieu. Quand? Le Mahamad Arsinaï. Le Mahamad Arsinaï, qu'est-ce qu'on nous dit? Kol shofar oler vechazek meor. Et c'est shofar. Il dit le Midrash, le shofar du bélier d'Abraham. La corne gauche, ça va jusque là le détail du Midrash, la corne gauche du bélier d'Abraham. Top, tout va bien. Mais alors attends, et la corne droite alors, on en fait quoi? Eh bien les amis, on a dit Yerushalayim, c'est ce qui nous réunit. Yerushalayim, c'est ce qui nous permet de nous dépasser. Yerushalayim, c'est ce qui nous permet de faire le lien entre le ciel et la terre. De quoi je parle? Je ne sais pas si vous avez été à l'Ulpan. Comment on dit en hébreu un enfant? Yeled, femeur. Pluriel? Yadim. Oh là là, joli. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait comment on fait le pluriel en hébreu. On rajoute im. Sauf qu'il y a un pluriel particulier. Quand ce n'est pas un pluriel, mais quand c'est un double. Là, on ne dit pas im, on dit aim. Par exemple, j'ai deux yeux, donc je dis pas einim, einaim. J'ai deux mains, je dis pas yadim, yadaim, raglaim, oznaim, yerushalaim. Ah donc, il y a deux Jérusalem. Nachon, il y a deux Jérusalem. Me dit la Gemara, dans le traité de Ta'anit, dans la source numéro 19 ici. Me dit la Gemara, dans le traité de Ta'anit, vous la connaissez. Que Kadosh Baruch Hu a passé un pacte avec le monde qu'il a créé. Et il a dit, je te promets, je ne rentrerai pas dans la Jérusalem d'en haut tant qu'Israël ne rentreront pas dans la Jérusalem d'en bas. Lo avo, Yerushalayim shel mala, ad she'avo Yerushalayim shel mala. Voilà, deux secondes. Donc Jérusalem, il y en a deux. Il y en a une en haut, une en bas. Mais c'est quoi? C'est quoi la Jérusalem d'en bas? La Jérusalem d'en bas, c'est très simple. C'est la Jérusalem que vous connaissez. C'est Ben Yehuda, la Rakevet, Takala, je sais pas moi, le Kotel, la Mamila, hein, là où tu kiffes aller. Tout ça, c'est la Jérusalem d'en bas. Mazé Yerushalayim shel mala. Mazé.
Benouya.
Hein?
Benouya.
Mazé. Benouya, ça veut dire quoi? C'est quoi, concrètement? Concrètement? Quoi? Les travaux qu'il y a à Jérusalem?
Non, comme avant.
Alors quoi?
Les mêmes délimitations qu'avant.
C'est, je m'en prie.
Les mêmes délimitations qu'avant.
Donc ça, c'est la Jérusalem d'en haut?
Je ne sais pas.
Tu dis c'est les mêmes délimitations qu'avant, que quoi, qu'à l'époque? Chas v'shalom. Aujourd'hui, on a dépassé de loin la Jérusalem d'avant. Non, on parle toujours de la Jérusalem de l'époque du Beth Amikdash. C'est rigidi, hein. La Jérusalem de l'époque du Beth Amikdash, c'est peanuts. Aujourd'hui, Jérusalem, elle n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. Jamais aussi belle qu'aujourd'hui. Jamais aussi extraordinaire qu'aujourd'hui. Je vais donner ça. Il n'y a jamais eu autant de Torah à Jérusalem qu'aujourd'hui. Jamais. Non, je ne veux pas revenir à ce qu'il y avait avant. Attends, Jérusalem aujourd'hui, c'est plus grand que Paris. Paris intramuros. Quand même. Attends, Jérusalem, tu sais comment c'est? C'est comment c'est grand, ça va de Gilo à Roma. C'est énorme, Ramoth. C'est super grand, Jérusalem. Bon, après, tu me demandes, c'est quoi qui est vraiment Jérusalem? L'indicatif 02, on lit la Megillah le 14, le 15, machin. Les amis, Yerushalayim, c'est extraordinaire. Mais tout ça, c'est Jérusalem d'en bas. Mazé Yerushalayim shel mala. Est-ce qu'on a des Tunisiens dans la salle? On a des Tunisiens? Hein? C'est bon. Donc, on est. La Torah est une, tout va bien, ça d'air. Vous êtes tous persuadés que Béhémet, la Torah est une. C'est évident. Donc si je vous dis, par exemple, que c'est marqué dans la Torah que Adam Arishon était Ashkenaz, ça ne marchera pas. Pourtant, c'est marqué. Non, c'est vrai. Bah oui. Il y a marqué « Vayikra Hashem Elokim El Adam Vayomer Lo Hayek ».
Non, c'est... Ah, t'es super jusqu'à maintenant.
Il est tunisien ou pas tunisien? Eh bien, les amis, Jérusalem d'en haut, cette question a été posée au plus grand tunisien de l'histoire, mais ça, c'est un avis très personnel. C'est-à-dire, j'ai un avis personnel, pour moi, c'est qui le plus grand rabbin tunisien de tous les temps? Ben, c'est un grand rabbin, mais j'ai une préférence pour quelqu'un d'autre. À savoir, le Rav Meir Yehuda Getz. Le Rav Meir Yehuda Getz, c'était non seulement le Rav du Kotel, mais c'était aussi le Rosh Yeshiva de la Yeshiva des Kabbalistes à Jérusalem. Vous pouvez marquer sur internet le Rav Meir Yehuda Getz, vous allez voir que c'est une photo qui est extrêmement puissante. Il était habillé tout le temps en blanc. Et il avait un Streimel blanc. Oui, un Tunisien avec un Streimel. Ne me pose pas la question. Je ne peux pas savoir. Il y a Atzfat. Il y a Atzfat, quand il se passe des trucs improbables, c'est une ville où, de l'improbable. Et dans la rue Bar Yochai, il y a une synagogue. Rien que l'inscription de la synagogue, c'est pas. Cherche pas. Il y a marqué là-bas. Chassidut. Ah, tu vois, ça c'est le Rav Getz. Ça c'est la photo du Rav Getz. Du Rav Meir Yehuda Getz. Vraiment très 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 impressionnant. Maintenant, je te dis, il y a une synagogue à Tzfat comme ça. Il y a marqué sur la pancarte de l'entrée de la synagogue Beit Knesset ve Beit Midrash, comme ça avec les lettres en yiddish, de Chassidut Vijnitz. Vijnitz, Tunis. Benesiu Tarav. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des choses qui nous dépassent. On a demandé au Rav Getz, « Mazé Yerushalayim shel mal. » Rosh Yeshivat HaMekubalim, ce n'est pas un petit joueur. Il a dit, al pi Zohar, « Yerushalayim shel mal, c'est un sac avec des neshamot. » Mais pas stam des neshamot qui sont les neshamot de la prophétie. Que Dieu a arrêté de donner depuis la destruction du premier temple. Et donc, il fait une promesse. Il dit, tant que Israël ne reviendra pas dans la Jérusalem d'en bas, moi je ne rentrerai pas dans la Jérusalem d'en haut. Je ne redonnerai pas ces neshamot-là. Donc quand est-ce qu'on est revenu dans la Jérusalem d'en bas? Eh bien en 1967, Baruch Hashem, on est revenu dans la Jérusalem d'en bas. On a conquis la Jérusalem d'en bas, de la main des Jordaniens. Et donc, à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu a recommencé à donner des neshamot extraordinaires. Est-ce que tout le monde en a reçu? J'ai envie de penser que oui. D'ailleurs, je sais que c'est quelque part vrai. Pourquoi? Parce que les amis, alors, je ne rentre pas dans le détail, mais on se rend compte, mamash, qu'aujourd'hui, plus on a des jeunes, et plus les enfants naissent maintenant, et plus ils grandissent, ils comprennent des choses dans la Torah, à des âges qu'il y a 100 ans, c'était seulement les plus grands rabbins qui comprenaient. Béhémet, c'est absolument incroyable. Moi, je vois mes enfants. Alors, tu vas me dire, c'est parce qu'ils habitent à Jérusalem. C'est l'air de Jérusalem rend sage. Mais c'est incroyable. Aujourd'hui, à Israël, il comprend des choses pour tout le monde. C'est-à-dire, le public comprend des choses qu'à l'époque, seulement les plus grands rabbins comprenaient. Il semblerait qu'on a des neshamot extraordinaires. Et plus nos enfants naissent proches du Mashiach, et plus ils comprennent des choses incroyables. Mamash, c'est ce qui est marqué dans le livre de Yoël. Banavi Yoël, dans le prophète Yoël, au chapitre 2, il y a marqué là-bas que Vaya bayomahu ishpoch et ruchi al kol basar. Viendra un temps où Dieu ramènera la prophétie et il va la donner à tout le monde. Ouais, mais attention, tout le monde n'aura pas le même niveau de prophétie. Et là, il nous dit Ziknechem chalomot yechalmu. Les gens plus âgés, ils recevront le degré de prophétie qui s'appelle chalom. C'est pas mal. Mais il nous dit le Rambam, c'est le plus bas degré de la prophétie. Ensuite, on dit Benechem ou Vnotechem Yenabou. Les adultes, Banim Banot, ils vont recevoir le degré plus haut qui s'appelle Nevoa. Fait. Aval Bachurechem, les jeunes, Chézionot Yechazou. Ils recevront le plus haut degré de prophétie qui s'appelle Chazon. Semble-t-il que plus tu es jeune, plus en fait tu es relié à cette dimension extraordinaire. Donc nous dit le Rav Guette, à partir de 1977, on est revenu dans la Jérusalem d'en bas, à Kadosh Baruch Hu, il revient dans la Jérusalem d'en haut. Et c'est ça que quelque part on fête. Ou alors, on fête quelque chose d'encore plus profond. Et oui, on fête quelque chose d'encore plus profond. Qu'est-ce qui s'est passé en 1967 quand on est revenu à Jérusalem ? Vous la connaissez l'histoire ? L'histoire de la conquête de Jérusalem est absolument incroyable. D'abord, elle n'aurait pas dû avoir lieu. C'est Mamash Mealateva d'avoir osé. C'était pas prévu dans la guerre des six jours qu'on conquiert Jérusalem. C'était pas du tout prévu. Le deuxième jour de la guerre, quand finalement on a compris que les Jordaniens y rentraient dans la guerre avec les Égyptiens et les Syriens, alors on ne savait pas quoi faire. On a dit qu'il faut envoyer des hommes pour protéger Harat Sofim. Parce que Harat Sofim, c'était le seul point en hauteur où il y avait des Juifs. Donc il fallait envoyer des hommes protéger Harat Sofim. Et pour ça, il fallait prendre la colline des munitions et l'école des officiers où il y avait plein de Jordaniens. Et une fois que le combat de Givat HaTachmoshet a eu lieu, qui est un combat extraordinaire, au petit matin, on est en juin, au petit matin, les soldats d'Israël arrivent au Mont des Oliviers, dans ce qui est l'hôtel aujourd'hui des Sept Arches, mais qui s'appelait à l'époque Intercontinental. Ils arrivent à l'hôtel. Il est 6h du mat. Le soleil se lève. Alors vous savez, le soleil se lève à l'est. Maintenant, on a deux hommes. Un qui s'appelle Motagour, qui est le chef des parachutistes, l'autre qui s'appelle Moshe Dayan avec son bandeau. Et qu'est-ce qu'on fait ? Le soleil se lève, ils regardent, depuis le Mont des Oliviers, ils regardent le Harabait. Et le soleil se lève dans leur dos et commence à éclairer tout le Harabait. Ils disent, c'est trop bête. On est là. Et on attend l'ordre. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Et finalement, l'ordre est donné à 6h17. On y va. Et on y va. Et on va conquérir la vieille ville. Et on va conquérir Jérusalem. C'est absolument incroyable. Les gens ne se rendent pas compte, sur place, ce qui est en train de se passer. Et finalement, à 10h du matin, on entend les soldats d'Israël à la radio. Et vous n'avez qu'à taper, encore une fois, sur YouTube. Vous marquez « Harabait Beyadenu » et vous entendez les soldats, la radio qui suit les soldats. On entend « Harabait Beyadenu, kolakochot hadal » Cessez le feu, toutes les unités, ça y est. Et au moment où on entend ça, il y a un homme qui a accompagné les soldats. C'est un homme très particulier, il est membre de l'armée, mais à la différence qu'il est un peu plus âgé que tout le monde, il a à peu près 60 ans, et une barbe jusque là, il s'appelle le Rav Shlomo Goren. Le Rav Goren qui est le grand rabbin de l'armée, qui la veille a libéré tout seul la ville de Hebron. Tout seul. Non, je plaisante pas. Il a libéré tout seul la ville d'un rabbin. De tous les Arabes qu'il y avait à Hebron. Comment c'est possible ? Encore une fois, tu crois que c'est une histoire. C'est pas une histoire. C'est le Ribbono Shel Olam qui est en train de se dévoiler. Qu'est-ce qui se passe ? Il retrouve la veille de la conquête de Hebron. Il retrouve les soldats au Gush Etzion. Il dit, il leur fait une sicha, tu sais, le rabbin, comme ça, qui veut remonter le moral de tout le monde. Il dit, les amis, demain, vous allez à Hebron, et bien vous savez quoi ? Demain matin, après les combats, on va prier ensemble, Shacharit, Amarat, Amarpela. Ça va être extraordinaire. Allez, les soldats, ils sont comme des oufs. Ils sont pas religieux, tu vois, mais ils sont comme des oufs. Il dit, moi, je viens avec vous demain matin, alors n'oubliez pas de me réveiller. Il est tellement excité qu'il met son réveil, je sais pas comment il met son réveil, il se réveille le lendemain matin, il dit à son chauffeur, parce qu'il y a une jeep à lui avec son chauffeur, il dit, allez, réveille-toi, on y va, il faut pas qu'on les rate. Il prend la jeep, et c'est parti, il arrive à Hebron. Et puis ils avancent de Hebron et puis ils se rendent compte qu'il n'y a pas de soldats. C'est-à-dire que lui, il pensait partir avec tout le monde. Il s'est réveillé, il a vu qu'il n'y avait plus personne. Alors il s'est dit, bon, on est en retard, alors on va les retrouver. Et plus il avance, et plus il n'y a pas de soldats. Il n'y en a pas. Et en fait, il se rend compte quand il arrive à Hebron qu'il s'est levé trop tôt. Que ce n'est pas qu'il a raté les soldats, c'est qu'ils ne se sont pas levés encore, ils ne sont pas là. Et donc il commence à se rendre compte qu'il est tout seul à Hebron, toute la ville avec tous les soldats arabes, il est tout seul. Bon, il y a son chauffeur. Mais son chauffeur. Mais le Rav Goren, il n'y a pas de problème. Il arrive devant la Marat Arpella, il descend de sa jeep, il prend son arme, il commence à tirer en l'air. Et tous les Arabes le voient avec sa grande barbe blanche. mecs qui disent c'est pas possible qu'il soit venu tout seul. Genre s'il est là, c'est qu'il est l'avant-garde et les gros des troupes, ils sont là. Donc, qu'est-ce qu'ils font les Arabes en voyant le Rav Goren comme ça? Ils tapent à la porte de la Maratha Marpella. Et tous les Arabes, étant persuadés qu'il n'est pas tout seul, baissent les armes, lèvent les drapeaux blancs et donnent les clés de la ville au Rav Goren. Et les soldats d'Israël arriveront une heure plus tard. Et quand ils arrivent, ils disent ouais, c'est bon, c'est fini. Alors le lendemain, c'est Motagour, le chef des parachutistes, qui est arrivé, il est en retard, et il dit bon, hey, demain Jérusalem, tu ne nous fais pas, tu viens avec nous. Ils arrivent à Jérusalem ensemble. Arabaïk Beyaden. Et à ce moment-là, on entend, vous n'avez qu'à marquer sur YouTube, on entend le Rav Goren qui dit Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Menachem Tzion Ubonei Yerushalayim. Et à ce moment-là, il sort de sa poche. Shofar. Vous vous rappelez de la corne droite du bélier d'Abraham? Il sort le shofar au mont du Temple qui sonne le début de quelque chose. Et je termine par là. Ce son du shofar du Rav Goren à ce moment-là, en 1967, le retour dans Jérusalem d'en bas à d'en haut, vous avez compris, sonne le début de quelque chose. On le dit dans toutes nos mirotes de Shabbat, que Be'ezrat Hashem, on va arriver dans un Yom Sheukulo Shabbat. En Geoula Shlema, la folie, Olam Abba, Yom Sheukulo Shabbat. C'est quand, ce fameux Yom Sheukulo Shabbat? D'après la tradition juive, vous le savez, Bereshit bara Elohim tashamayim v'et haaretz, al tikra Bereshit et la barachet. C'est-à-dire, ne lis pas Bereshit, mais lis pour 6000 ans le monde a été créé. En l'an 6000, c'est obligé, c'est le début de la... Si ce n'est pas avant, c'est la deadline. Ok. Donc, l'an 6000, c'est le début de Shabbat de l'histoire. Ah ben, dites-moi, quand c'est Shabbat, je ne sais pas à quelle heure c'est Shabbat maintenant à Paris, mais je ne sais pas surtout quand ça termine Shabbat à Paris, c'est ça, une autre histoire. Mais est-ce qu'on fait rentrer Shabbat un peu avant l'heure officielle? On fait ça. En Israël, c'est 18 minutes avant, à Jérusalem, 38 minutes, je ne sais pas combien on fait à Paris. Mais on fait rentrer Shabbat un peu avant. Il y a Tosefet Shabbat avant, Tosefet Shabbat après, on fait rentrer un peu avant. Mais est-ce qu'on a le droit de faire rentrer Shabbat à 10h du mat le vendredi? Non, il y a une limite quand même. Tosefet Shabbat, c'est bien, mais il y a une limite, on ne peut pas exagérer. Mais les amis, ce qui est vrai pour Shabbat toutes les semaines est vrai également dans le Shabbat de l'histoire. Il dit le Gaon de Vilna dans son commentaire du Sifra d'Itzniuta, le commentaire du Zohar. Il dit le Gaon de Vilna, de la même façon qu'on peut faire rentrer Shabbat avant, on peut faire rentrer le Shabbat de l'histoire avant. Combien avant? C'est quoi la limite? Keminyan Erev Shabbat. Comme la valeur numérique du mot Erev de Erev Shabbat. Mais Erev, c'est 272. Il dit le Gaon de Vilna, 272 ans avant l'an 6000, c'est là que tu peux commencer à aller à Ardish, à sentir Kdushat HaShabbat. Ben, en Goït, ça fait 1967. En 1967, a commencé Erev Shabbat. Alors évidemment, ça a été mis en place par Kadosh Baruch Hu qui a amené sa main par les soldats d'Israël qui ont conquis Jérusalem. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que c'est marqué quelque part? Bien oui les amis. Et c'est vraiment par là que je m'arrête dans la feuille. C'est les dernières sources. Vous savez, dans le Tanakh, il y a plein de prophéties. Il y en a qui vont se réaliser, Bezrat Hashem, mais il y en a qui se sont déjà réalisées, et c'est sympa de le savoir. Et là, par exemple, vous en emmenez une dans la source numéro 17, c'est dans le livre de Zechariah, Anavi, dans le chapitre 14. On nous dit comme ça, « Va'asafti et kol agoyim el Yerushalayim la milchama. » Viendra un temps où Dieu va amener tous les goyim pour faire la guerre à Jérusalem. Bon, pas chouette que tous les goyim, ça ne veut pas dire forcément toute l'ONU, mais plein de goyim. « Venil keda'ir, venachasso abatim, la ville sera prise, les maisons seront détruites. Va'anashim tishachavna, et malheureusement, des femmes seront violentées. » Et la moitié de la ville va partir en exil, mais le reste du peuple ne va pas être déraciné de la ville. Cette névoie, elle s'est réalisée mot pour mot en 1948. En 1948, Jérusalem a été sous siège, a été bombardée, les femmes ont été violées, et la moitié de la ville est partie en exil. Et le reste du peuple est resté dans la ville. 1948, dans les mots. Ah oui, mais attendez, ça continue. Et là, on nous dit... Et Kadosh Baruch Hu finalement va sortir et va faire la guerre pour Jérusalem. Il dit Rabbeinu Yitzhak Abravanel, Maze Veyatsa Hashem Veyilachem, Maze Hashem Shenilcham, Omer Al Yede Am Israël. Donc, grâce au peuple juif, c'est Hashem qui fait la guerre. Ok, comment? ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. Et ses pieds, les soldats d'Israël, vont se tenir sur le mont des Oliviers. Ça, c'est 1967 dans les mots. Où on passe par le mont des Oliviers. Et après, Asher al-Pene à Yerushalayim Mikedem. Et là, il y a une troisième partie de la névoie qui ne s'est pas encore réalisée. Be'ezrat Hashem. C'est quoi la troisième partie? Venifka har hazetim mechetzio mizracha vayama ge gedola meod umash chetzi har tzafona vechetzi hanegba. Que le mont des Oliviers va s'ouvrir en deux. Bon, prochaine fois que vous vous baladez sur le mont des Oliviers, si vous voyez que ça bouge. Alors si, s'il n'y a pas marqué où ça va s'ouvrir. Mais pas de problème, nos amis chrétiens nous ont fait une tova. Ils ont créé du haut en bas de la montagne, sur la même ligne, trois églises. Comme ça, pour tirer un trait bien clair, savoir que Kadosh Baruch Hu sache où il faut ouvrir Kol Beseder. Les amis, on est dans la névoie là. Ça se passe. Nous sommes en train de réaliser la névoie. Et la reine, le Rav, qui était le Rav de Jérusalem en 1967, qui s'appelle le Rav Tzvi Pessar Frank, écrit dans sa. Dans une lettre qui est reprise après par le Rav Kook, qui lui dit Baruch Hashem avar alenu yom etmol kafred beiyar. Yom ze gadol meod. Maze avar alenu yom etmol kafred beiyar. Le 28 Iyar. Yom Yerushalayim. Qui va devenir, on a dit, cette journée de fête. Qu'est-ce qui s'est passé, kafred beiyar, dans l'histoire? Alors, c'est aujourd'hui le jour de Jérusalem. Mais est-ce qu'il ne se serait pas passé des trucs avant? Yom Yerushalayim a été précédé. Vous savez qu'avant qu'on fasse la fête, parce que c'est la fête de Jérusalem, il y avait un minhag à Jérusalem que le 28 Iyar, on allait sur la tombe de Shmuel HaNavi. Parce que c'est la Iloula de Shmuel HaNavi, du prophète Samuel. Mais attendez, il s'est passé un autre truc avant. 28 Iyar, c'est la première fois que Am Israël est devenu une malroute. À trouver et à utiliser son idée, sa réalité de souveraineté. On sort d'Égypte. Alors c'est bien gentil, on est sorti d'Égypte, mais on n'a rien encore fait comme peuple. C'est quoi notre première action souveraine de peuple? C'est la première guerre qu'on va faire. Contre qui on l'a fait? Contre Amalek. Milchemet Amalek. Eh bien ça se passe quand Milchemet Amalek? Le 28 Iyar. C'est-à-dire que dès le début de l'histoire, c'est le moment où la malchoute est revenue au peuple juif. Et maintenant, je termine par là. Et donc, ce n'est pas anodin que HaKadosh Baruch Hu a décidé d'emmener la victoire du peuple juif dans notre génération, d'Afka, le 28 Iyar. Vous savez, nous sommes dans Sirat HaOmer, Pashut, et la Torah de la Kabbalah est rentrée dans le peuple juif, particulièrement chez les Sfaradim. Et donc, quand on compte le Homer, dans la majorité des Sidourim, dans le Patar, je crois aussi que c'est marqué, à côté de chaque jour du Homer, il y a deux mots comme ça qui sont marqués. C'est marqué dans le Patar aussi. Mm-hmm. Qui sont en rapport avec les Sfirot de la Kabbalah. Cette semaine, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Ma Corée. Par exemple, cette semaine, on est quoi? Yesod. Quel rapport? Pourquoi est-ce que cette semaine d'Afrique, c'est Yesod? Qu'est-ce qui est Yesod dans le judaïsme? Qu'est-ce qui est appelé Yesod dans le judaïsme? Sans entrer dans la Kabbalah. On n'est pas des Mekoubalim. Pashut. Tzadik, Yesod Olam. D'accord ? Tzadik, Yesod Olam. Le tzadik, c'est la base du monde. Comment on devient tzadik ? Torah. Torah. Il y a un bouquin qui a été mis en place de A à Z pour que tu deviennes tzadik. Même un peu plus. Il s'appelle Messilat Yeshari. Ramchal. Voilà.